Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes avec Marie Marquet. Bonjour.
Bonjour.
Et Dalison Marshall Adjet. Bonjour.
Bonjour.
Toutes les deux, vous êtes membres du collectif La Tulipe Sauvage et vous faites actuellement circuler depuis quelques semaines une pétition pour préserver quelques terres agricoles qui environnent Die et pour certaines seront dédiées à la construction, de, par exemple, du futur hôpital ou de l'agrandissement de la ZAC, la zone d'activité et commerciale de Die. Cette pétition, elle a été décidée à quel moment ?
Alors, on a commencé en fait en juin. On s'est retrouvés parce que on voyait les bâtiments qui se construisaient à la sortie de Die depuis un moment et on s'était donné rendez-vous pour dire qu'il fallait que ça s'arrête parce que la situation a changé. On n'a plus autant de... Enfin, on vit dans un monde fini quand même. C'est pas comme si les terres agricoles étaient infinies. On vit en plus dans le Diwa. Regardez autour de vous, il y a des montagnes tout autour. Les terres qui sont plates et irrigables, il n'y en a pas autant qu'on veut. Et voilà, c'est là que ça a commencé.
Autour de cette pétition, vous illustrez le propos avec deux photographies aériennes qui démontrent de terres agricoles à zones constructibles. Ça passe de 1 à 6.
Sur la photo, en fait, il s'agissait d'illustrer le fait qu'en 60 ans, la surface agricole a diminué au profit d'une surface artificialisée et que cette surface qui a été construite, donc c'est des routes, c'est du béton sur des zones artisanales, des parkings, c'est des entrepôts et de l'habitat aussi. Et donc la photo, en fait, elle montre Die dans les années 50 et Die maintenant. Et elle illustre le fait qu'en 60 ans, on a eu 5 fois la taille de Die qui a été colonisée par des surfaces techniques bétonnées d'une manière ou d'une autre. Et en fait, comme disait Alison, le gros enjeu qui nous inquiète réellement en tant que citoyens, c'est que, étant dans un fond de vallée, dans un contexte où, en plus, il y a des problématiques d'eau, des problématiques aussi d'autonomie alimentaire qui vont se poser pour l'avenir, puisqu'en fait, il va y avoir plus de pétrole, où, à un moment donné, la question du pétrole va changer les paramètres au niveau agricole. Eh bien, on doit préserver de quoi cultiver pour pouvoir se nourrir localement, parce que sinon... on aura effectivement une dépendance très forte à des produits qui viennent de l'extérieur et qui, eux, seront de moins en moins accessibles et puis produits peut-être dans des conditions aussi qui nous conviennent moins. Et ça, c'est un autre aspect. Et donc, le but, c'était de montrer avec cette photo qu'en fait, on est arrivé à notre limite, mais on l'a même peut-être déjà franchi, mais en tout cas, on est réellement arrivé à la limite de ce qu'on peut consommer comme terre plate.
D'autant que la population n'a pas augmenté dans la même période, ou très peu. En comparaison, vous citez 600 habitants en 50 ans.
De plus, ouais.
De plus. Donc, quel est pour vous, ou alors qu'est-ce qu'on vous a justifié pour ces agrandissements de terres qui seront voués au bétonnage ?
Alors, il y a plusieurs questions. Il y a à la fois la zone... artisanal qui est en développement. Et voilà, c'est des choses qui ont été décidées il y a 15 ans, mais le processus a pris très longtemps. Et la situation a changé. On peut avoir pris des décisions et avoir déclassé certaines zones qui, a priori, ne seraient plus des zones agricoles. Et puis, on peut décider peut-être de les reclasser en zones agricoles aussi. Là, il y a 4 hectares qui appartiennent à la communauté de communes, là où ont eu lieu les fouilles donc à Chamarge. Et a priori, la communauté de communes voudrait les vendre et continuer à construire d'autres... il y aurait d'autres constructions sur cette zone-là. Alors qu'il y a dans le même temps certaines zones qui n'ont pas encore été développées. Et il y a des locaux commerciaux qui sont vacants. Donc, on pense qu'il y aurait moyen de faire les choses d'une autre manière, de manière plus rationnelle dans cette zone-là. Après, il y a aussi la question de l'hôpital. Donc, il y a une parcelle de 3 hectares qui a été rachetée par l'Agence régionale de santé sans aucune consultation publique, sans déclaration d'utilité publique. C'est une zone qui est encore une zone agricole. Et il y a ce projet de construire un nouveau bâtiment, mais qui serait une coquille vide, puisque ce sera un hôpital de proximité, où même les urgences, c'est en option.
Quelles sont les justifications de la Comcom pour cet achat de terrain ?
En fait, c'est un projet... disons que les choses se sont faites dans un temps long, comme expliquait Alison, et c'est vrai qu'effectivement, il y a eu un PLU qui s'était élaboré, dans lequel un certain nombre de terres étaient classées en agricole et d'autres étaient dédiées à la zone artisanale. Et la zone artisanale, en fait, c'est un projet qui est vraiment un projet de la Comcom, la communauté de communes, puisqu'en fait, les communes du Diwa se sont organisées ensemble pour créer un espace de production économique avec des entrepôts, etc. Donc en fait, c'est un projet territoire, c'est pas un projet de la municipalité de Die. Donc ça s'est développé en 3 temps. Il y a eu une première étape où ils ont construit la zone, sud, la moitié sud. Une deuxième étape qui est la partie où il y a actuellement Gamme Vert, Le Greta, tout ça. Non, t'es pas d'accord ?
Si. Je crois que la deuxième. Ouais.
Il me semble que c'est la partie nord. Enfin, voilà. Et là, on est sur une extension qui, effectivement, s'est rajoutée et a demandé, pour pouvoir cette extension, pour pouvoir exister, le déclassement de terre. Après, la justification principale, c'est l'histoire du développement économique. Sauf que quand on observe vraiment la réalité, pour l'instant, dans la zone artisanale, il y a des structures qui y étaient déjà et qui sont logées, qui ont déjà des bâtiments. Il y a des structures qui étaient en ville et qui sont descendues. Et parfois au prix de désertification du centre-ville, de perte d'activité dans le centre-ville et de développement du coup de parking, de circulation en voiture, parce que les gens ne peuvent pas forcément facilement y aller. Il n'y a même pas de trottoir pour marcher, donc les gens n'y vont pas à pied. Donc c'est une logique très, très passéiste, en fait, qui ressemble à ce qu'on faisait dans les années 80, à l'époque du pavillonnaire le plus triomphant. Et c'est vrai que ça paraît aujourd'hui en 2020, avec tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est déjà transmis sur les urgences à la fois climatiques, de changement de nos déplacements, de modification de nos pratiques de consommation de l'espace agricole, de bétonisation. Enfin, tous ces sujets, en fait, on ne va pas les détailler ici parce que n'importe qui veut s'informer là-dessus, ce n'est pas compliqué de trouver des sources pour comprendre les enjeux qu'il y a sur tout ça. Et donc, du coup, cette décision, elle a eu lieu, effectivement, il y a un certain temps. Mais maintenant, en 2020, avec notre nouvelle configuration, il faut absolument re-réfléchir ces projets qui sont complètement passéistes, en fait. Et effectivement, qui ne se justifient que par une idée de développement économique, mais en fait, dans les faits, pour l'instant, peut-être Alison, tu voudras compléter là-dessus, il n'y a pas eu vraiment d'émergence de solutions en termes d'emploi. Et le fait d'installer des agriculteurs, c'est aussi une solution d'emploi, parce qu'on fait des emplois aussi en permettant d'avoir une vie localement.
Oui, oui, la plupart des zones qui ont été loties, c'est des entreprises qui étaient déjà existantes, qui ont déménagé et qui se sont étalées. Et il y a même des commerces, des logements, enfin bref, toutes sortes de choses qui font que d'un autre côté, il y a le centre-ville qui se meurt. Là, il suffit de remonter la rue Buffardel, voilà, à louer, à vendre, à louer, enfin un peu partout. Dans le centre de Die, il y a 14% des pas de porte qui sont vacants. Et normalement, à partir de 10%, il faut commencer à s'inquiéter. Donc, tous ces sujets-là sont liés. Il y a la mort du centre-ville, il y a l'étalement urbain, il y a toutes ces questions-là sont liées. Il y a la question des déplacements. Voilà.
On parle de terrain actuellement à Chamarge, dont apparemment 2 sont encore en viabilisation ou en attente d'achat. Mais tous les bâtiments qui ont été construits sur cette parcelle de Chamarge, là, sur la zone d'activité, je crois qu'il y avait 11 ou 13 parcelles, je ne sais plus exactement les chiffres, sont-elles toutes occupées ou les bâtis sont-ils tous occupés ?
Alors là, Il y a certains bâtiments qui sont encore en construction et puis il y a encore deux zones, deux parcelles à lotir. Voilà, sans parler de la façon dont ils sont lotis. C'est des parcelles qui font 1000 mètres carrés. Dessus, il y a un bâtiment de 300 mètres carrés. Il y a des parkings qui sont vides les trois quarts du temps. Il y a une question d'utilisation de l'espace et d'urbanisme. Et ça, c'est pas assez pris en compte. Il y a des nouvelles façons de faire, même éventuellement de ne pas vendre ces parcelles, mais uniquement de les louer. Parce que si les gens, après, ils décident de partir, eh ben, soit ce bâtiment il reste vide parce que les gens, ça ne les intéresse pas. Il n'y a qu'à voir à l'entrée, là, par exemple, il y a JTEM. Ça appartient à quelqu'un et c'est en location depuis des années. Et en fait, c'est toujours pas... C'est en location, c'est plutôt alloué. Et on voit le panneau alloué, alloué, alloué. Ça fait plusieurs années et il n'est pas occupé. Je veux dire, ce genre de situation, ça ne doit pas se produire.
Moi, j'ai envie d'ajouter que, en fait, c'est justement pour ça qu'on essaye d'interpeller les élus de Die et du Divoire. C'est qu'en fait, là, c'est un problème de bonne gouvernance. Ce qu'on appelle la gouvernance d'un territoire, c'est réfléchir à comment on arbitre l'usage de nos ressources, de nos terres. C'est vraiment ça le sujet, en fait, pour moi, de la bienveillance par rapport à un territoire et d'avoir envie d'en faire quelque chose qui va durer dans le temps, être le plus économe en impact et en choses négatives et permettre la meilleure valorisation pour tous les habitants et ceux à venir, et notamment nos enfants et tout ça. Et ce qui nous rend la situation difficile à nous en tant que citoyens, c'est qu'on a l'impression, quand on évoque ce sujet de bonne gouvernance et de pratique d'anticipation sur l'avenir, on a l'impression toujours qu'en face de nous, on a des personnes qui sont sous pression de questionnement administratif et qui disent tout le temps « tout est déjà vendu, tout est déjà classé, tout est déjà voté, tout est déjà... » Et il n'y a aucun moment où on se dit « là, on va pouvoir discuter de ce sujet, on va pouvoir se mettre tous autour de la table, partager les enjeux, trouver la meilleure solution et faire quelque chose qui sera bien pour tout le monde. » Il ne s'agit pas du tout ni de dire « il ne faut pas de développement économique », ni de dire « les gens n'ont pas le droit d'avoir besoin d'entrepôts pour travailler ». Il ne s'agit absolument pas de ça, mais il s'agit vraiment de dire « mais quand est-ce qu'on réfléchit ?» Au lieu de faire juste n'importe quoi les uns derrière les autres, il y a une question vraiment de... Je n'ai pas d'attention, d'envie de prendre soin de l'endroit dont on dépend pour notre survie. Parce qu'en fait, ça va être aussi une question de survie. Et je ne suis pas du tout quelqu'un qui est dans des logiques catastrophistes et tout ça. Mais c'est une réalité. Il suffit juste d'aller écouter la radio. Enfin, il suffit juste d'écouter la radio une fois de temps en temps le matin ou de lire n'importe quel journal pour avoir des infos sur ces problématiques de fond. Et je ne comprends pas pourquoi, quand on est dans une réunion, s'il y a un type qui se lève et qui dit « le développement économique, c'est important », tout le monde est d'accord et personne ne va dire « ouh, il est complètement orienté dans sa posture ». Mais quand on se lève et quand on dit « la préservation de l'autonomie alimentaire et de la biodiversité, c'est important », on est taxé d'une orientation politique forte. Et alors que
c'est des sujets qui sont complémentaires. Le développement économique, ça va aussi avec la préservation de nos ressources agricoles, de nos ressources environnementales. En fait, ce n'est pas du tout des choses qui doivent être opposées, c'est des choses qui doivent être complémentaires. On parle de transition énergétique, de transition écologique. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire avec les ressources qu'on a et de donner une juste valeur à tout, à la fois aux terres agricoles, à l'environnement et à l'économie et à l'emploi. Et il y a des manières de créer des emplois sans manger de la terre agricole. Je veux dire, même dans le centre-ville de Die, il y a quelques exemples. Il y a l'histoire de l'espace Barral, là, où il y a quand même une trentaine d'emplois sur un vieux bâtiment et il y a des gens qui viennent y travailler. Il y a plein d'autres possibilités à explorer. Mais il faut explorer ces possibilités en se disant on ne va plus utiliser des terres agricoles pour ça.
Quelles sont les compétences qui amènent la Comcom du Diois à décider de telle superficie de terre ou de lotissement pour construire un futur bâtiment d'activité économique ?
Moi, je dirais qu'en fait, la Comcom, en fait, elle a à la fois des techniciens qui ont des compétences d'aménagement, qui sont des gens qui vont apporter des ressources techniques, et puis elle a l'ensemble du corps des élus du DIWA qui se rassemblent à cet endroit-là pour réfléchir au projet sur le territoire. Sauf que, certainement, dans le temps, avec les différentes étapes d'élection, enfin, les changements d'équipe, avec les changements aussi de problématiques territoriales, j'ai l'impression, en tout cas moi, en tant que personne extérieure, des fois qu'il y a des glissements entre des choses qui ont été votées à un moment et la prise que les élus ont sur leur sujet. Mais en fait, je pense que les élus sont quand même, pour l'instant, les personnes vers qui nous, on doit se tourner pour pouvoir les élus sont nos représentants et sont les personnes à qui parle notre vote. On a délégué l'engagement qu'on voudrait sur le territoire. Donc, en fait, la Comcom, elle est que l'outil, normalement, de ces élus. Si tout est comme moi, je l'imagine, en tout cas. Enfin...
Oui, ce qu'on voudrait vraiment faire, c'est intervenir en conseil communautaire pour parler de ces sujets et présenter ces sujets. Ça fait un moment qu'on demande un rendez-vous et qu'on demande à intervenir depuis le mois de juillet. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de réponses. Mais en fait, on voudrait juste interpeller tous les élus du DIWA pour parler de ces sujets-là et pour leur présenter toutes ces questions et ces enjeux. Ça prendrait pas longtemps, hein, 10 minutes, on a dit. On a déjà fait, on est intervenu au conseil municipal de Die et on a eu une très bonne écoute pour l'instant. Voilà, et on aimerait continuer et les interpeller parce que la communauté de communes du DIWA est encore propriétaire de ces 4 hectares. Ces 4 hectares sont encore sont déclassés, mais peuvent être reclassés. Pourquoi pas installer des maraîchers, installer des agriculteurs, des jeunes agriculteurs. Voilà, c'est plus des terres céréalières d'ailleurs. Mais bon, il y a moyen de changer d'orientation. Si on va dans un sens, on peut aussi aller dans un autre sens.
Est-ce qu'à votre connaissance, il existait ou existe encore une alternative à cette proposition de terre pour une zone d'activité commerciale ou alors de cet hôpital? Est-ce qu'il existait des structures qui souhaitaient aussi ce terrain ou ces terres pour l'exploiter?
Déjà, c'était des terres agricoles, donc qui étaient cultivées par des agriculteurs. Après, sur la question de l'agriculture, il y a aussi la question du fait que chaque année au CFPPA, on forme, une vingtaine de jeunes qui souhaitent s'installer en agriculture. Ils arrivent, ils sont pleins d'énergie, ils ont plein de projets. Et en fait, ils repartent souvent sans avoir pu s'installer. Il y a déjà un manque de terres et un problème au niveau de la transmission des terres agricoles. Mais il y a plein de jeunes qui aimeraient s'installer et faire des projets s'ils trouvent des terres.
Ce qu'il faut dire pour compléter ce que explique Alison, c'est qu'en fait, dans les 10 ans qui viennent, une grande majorité des agriculteurs qui travaillent depuis très longtemps cette plaine de Chamarges vont partir à la retraite. Et donc, en fait, c'est un changement générationnel qui est en train de s'opérer en ce moment, déjà qui a commencé, mais qui va continuer, où on a une partie des personnes qui étaient déjà les gens qui travaillaient et qui produisaient les ressources sur ces espaces, qui vont être potentiellement renouvelées ou pas. Il y a plein de complications et de freins à la transmission. Souvent, les domaines sont grands. Donc, les personnes qui veulent s'installer, elles ont moins de moyens. Donc, c'est difficile de reprendre tel quel les domaines. Il y a des histoires aussi de famille, d'héritage. Il y a aussi des histoires de propositions, justement. Dans le cas, par exemple, de l'achat de l'ARS, on peut imaginer quand même que quand c'est une très grosse structure comme ça qui passe au-dessus de toutes les représentations locales et les élus, c'est aussi des gens qui sont en situation de faire pression et d'acheter, quoi qu'il arrive, les terres dont ils ont besoin sans tenir compte des enjeux qu'il pourrait y avoir d'installation. Et du coup, dans le DIWA, il y a non seulement le CFPPA, mais en fait, il y a plein d'autres personnes qui travaillent déjà depuis un certain temps et qui n'arrivent pas à travailler dans des conditions optimales parce qu'en fait, ils ne peuvent pas acquérir la terre. Sachant qu'en plus, souvent, on a la compétition aussi des maisons secondaires. C'est-à-dire que dès qu'il y a une ferme qui est entourée de terre, elle va se retrouver, les agriculteurs potentiels se retrouvent en compétition avec des gens qui ont beaucoup plus de moyens, qui viennent d'ailleurs, qui peuvent acheter ces fermes pour en faire des maisons secondaires ou même des maisons principales, mais qui ne vont pas les travailler et qui vont avoir des projets. Alors peut-être qu'ils auront envie d'un jardin ou d'un verger, mais qui n'auront pas des projets de production, qui auront des projets personnels sur ces terres. Et donc, il y a une grosse compétition. Le coût de l'installation devient prohibitif. Les gens ne peuvent pas, quand ils démarrent, arriver à trouver un endroit pour s'installer. Et donc, la municipalité pourrait, par exemple, par le biais de la Comcom sur ces nouvelles terres, porter un projet qui faciliterait l'implantation de jeunes agriculteurs qui n'ont pas l'apport financier pour ça, et en contrepartie d'un fonctionnement qui alimenterait, par exemple, les EHPAD, la crèche, enfin voilà, en contrepartie d'un fonctionnement alimentaire local.
J'aimerais bien revenir aussi sur l'hôpital, qui est aussi un problème. Donc, ça serait de construire une coquille vide, parce que à l'heure actuelle, à ma connaissance et puis à la connaissance de beaucoup, il s'agit d'un bâtiment, mais qu'est-ce qu'on y mettra à l'intérieur? Et ça, c'est toute la problématique. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment nécessité de reconstruire un bâtiment pour remplacer un qui existe et qui a déjà des compétences?
Alors là, c'est vrai que c'est le collectif de défense de l'hôpital qui serait le mieux placé pour répondre à toutes ces questions. Mais d'après ce que nous on a vu, les problèmes actuels de l'hôpital viennent principalement de problèmes de personnel et de manque d'embauche et de gestion humaine.
Oui, et par ailleurs, sur vraiment le côté, pas interne, parce qu'effectivement, le collectif de l'hôpital est plus ressource sur ce sujet, mais sur le côté vraiment bâtiment et espace, il y a plusieurs sujets qu'on peut soulever. Tout d'abord, un des arguments, c'est que l'hôpital n'est pas facile à restaurer, enfin à réhabiliter dans l'état, sauf qu'en fait, les documents qui permettent d'évaluer le coût de la réhabilitation face au coût de la reconstruction ne sont pas du tout disponibles. Donc en fait, on ne peut pas se rendre compte si c'est effectivement le cas ou pas. Par ailleurs, dans ce calcul, il manque quelque chose qui est qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment là-haut? Et ce bâtiment qui est en ville va rester à charge de la commune de Die. Donc en gros, si vous voulez, la logique, c'est que l'ARS, qui est une énorme structure régionale avec des financements quand même colossaux pour pouvoir faire de l'investissement immobilier, cette ARS, eux, ça leur coûtera beaucoup moins cher peut-être de racheter une parcelle à n'importe quel prix agricole et d'y faire un bâtiment tout neuf en placoplâtre et en parpaing. Mais nous, la commune de Die, ça ne nous avantage pas du tout, parce qu'en fait, on va se retrouver avec des bâtiments qui sont effectivement certainement un peu vétustes et à réaménager. Et qu'on les détruise ou qu'on les réhabilite, dans les deux cas, ça va être une facture colossale pour la municipalité. Et tout ça sans gain en termes de services. Et ça, c'est vraiment ce dont on est sûr. Donc, il y a déjà tous ces problèmes-là. De plus, il y a eu un problème tout simplement démocratique, puisqu'en fait, personne n'a été informé de manière vraiment globale, justement, de tous ces faits. Et ça, c'est pour cette raison-là qu'en fait, on prévoit... C'est pour ça qu'on prévoit, avec le collectif de l'hôpital et aussi avec d'autres associations comme Gare à nous, qui se mobilisent sur les questions de services publics et de biens communs, de faire une manifestation prochainement pour alerter sur les enjeux. Et en plus, bon, juste pour que les gens se rendent compte, tout ça, c'est très urgent. C'est-à-dire que tout ce dont on parle là, c'est dans les 15 jours, 3 semaines que ça va se décider. Donc si le sujet vous intéresse, il faut réellement se mobiliser maintenant. En fait, il ne faut pas attendre, parce que ça va encore nous passer sous le nez et qu'on va se retrouver avec des choix qu'on n'aura pas pu faire et avec une situation qu'on va imposer aux générations futures sans avoir réfléchi de manière complètement immature en se comportant comme si après nous le déluge et c'est pas grave si eux ils n'ont plus rien.
Affaire à suivre. moi je voudrais revenir sur ces terres agricoles. À l'heure actuelle, quels sont les modes d'irrigation de ces terres?
En fait, c'est des terres... Alors, ce qui est intéressant dans la plaine de Chamarche, c'est que c'est des terres qui sont faciles à travailler pour de la céréale. Il y a effectivement un canal donc, qui passe derrière le secteur des fouilles, là, qui pourrait être éventuellement valorisé dans des cultures plus maraîchères ou autres. Et donc, les deux avantages de ces terres, c'est que c'est des grandes surfaces qu'on peut mécaniser ou qu'on peut travailler, disons, de façon assez facile d'accès. Et qu'elles sont très proches de la ville et qu'on n'en a pas beaucoup d'autres comme ça parce qu'il y a aussi un sol profond. Comme ça a été jardiné, j'allais dire, pendant des siècles et des siècles, la qualité de la terre, elle se construit. En fait, ça se construit une terre agricole. Donc, autrefois, les anciens, ils ne construisaient pas sur les terres plates. En fait, ils construisaient sur les coteaux marneux qui ne proposent rien, à part éventuellement parfois d'élevage et encore. Et du coup, ça faisait qu'on gardait ce qui était la bonne terre pour se nourrir. Et là, le problème, c'est qu'en fait, on construit sur des espaces qui sont utilisés...
Les meilleures terres, voilà. Les meilleures terres agricoles.
D'ailleurs, en parlant d'épaisseur de terre exploitable, on atteint les roches à quelle profondeur, vous le savez, ça, à l'heure actuelle ?
Non, mais en fait, la profondeur, c'est au moins 1,50 m, puisque c'est ce qu'ils ont fait pour les fouilles. Et c'était déjà, même en dessous d'1,50 m, il y avait une terre qui était encore meilleure.
Ouais.
Du temps des Romains, justement, c'était déjà des terres qui étaient cultivées. Et c'était, quand on regarde la couleur de la terre, quand on visite, là, quand il y avait les fouilles, eh ben, c'était une belle terre qui était encore meilleure même avant.
De toute façon, c'est logique, hein, c'est de la géomorphologie, c'est-à-dire sur les coteaux, sur les pentes, la terre, elle ruisselle. Et donc, dans la plaine, dans le creux, c'est l'endroit où on a des terres qui peuvent être soit alluvionnaires, soit des terres simplement qui se sont accumulées et qui se sont valorisées avec l'apport de fumure et tout ça tout au cours de l'histoire. Et donc, en fait, ça se trouve, on a même 3 mètres ou 5 mètres de sol, je ne sais pas. Enfin, on n'a pas fait de carottage, mais je veux dire, en fait, la roche est très loin à cet endroit-là. On est vraiment dans de la terre profonde et riche.
Non, mais c'est pour permettre la pose des fondations. En général, on essaye d'atteindre la roche pour avoir un sol stable pour les constructions.
Bonne question.
Ça veut dire qu'il y aura un décaissement de toutes ces terres. Qu'en sera-t-elle de ces terres ?
Alors là,
bon sujet.
La tulipe sauvage, donc c'est le nom du collectif qui revendique cette préservation de ces terres agricoles. C'est parti aussi de cette idée de Chamarge où il existait un champ de tulipes sauvages et qui avait été prélevé pour être replanté un peu plus haut dans la vallée. Vous en avez des nouvelles de ces tulipes sauvages ?
C'est vrai qu'on a un spécialiste là dans le collectif, Grégory Lemoine, et c'est lui. Enfin, et puis il y a beaucoup de gens. Bon, on peut déplacer les bulbes, mais après la reprise est plutôt minime. Hein. Je crois que c'est 5%, c'est ça, de reprise. Il faudrait vérifier, mais.
Et peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que par contre, les tulipes, d'abord, il y en a certainement encore, mais surtout là, il y a eu un inventaire floristique qui a été fait par Grégory Lemoine sur la parcelle de l'ARS. Donc la parcelle du futur éventuel hôpital. Et il y a 104 espèces de plantes, d'espèces végétales présentes, dont 13 qui bénéficieraient d'une protection. Donc ce qui est peut-être intéressant aussi de dire, c'est qu'en fait, ce n'est pas parce que c'est des terres agricoles que c'est des terres pauvres en diversité floristique. Au contraire, en fait, il faut bien se rendre compte que les espèces, elles s'installent en fonction de leurs besoins. Et que donc, sur les terres agricoles, il y a aussi des cortèges floristiques qui sont associés aux cultures et que préserver des terres agricoles, c'est aussi préserver des espaces d'habitat pour de la faune et de la flore qui peut disparaître si on enlève ces espaces cultivés, quoi.
Ouais, ces espèces, c'est des espèces qu'on appelle les espèces messicoles et qui sont liées aux moissons. On parle toujours du coquelicot, mais il y a aussi les bleuets, par exemple.
Ouais. Et là, dans les espèces protégées, apparemment, il y a quand même aussi pas mal de plantes vraiment qu'on ne trouverait pas ailleurs et aussi des oiseaux, hein, puisqu'il y avait donc aussi
Gilbert David voilà, de la LPO qui a regardé et ils ont fait dans les 20 dernières années plein d'observations d'oiseaux qui passent dans ces zones-là.
Et qui nichent parce que justement c'est des oiseaux qui vont nicher au ras du sol, dans les blés, dans les moissons. Donc c'est vraiment des biotopes spécifiques dont on a autant besoin que le reste, la forêt, les montagnes. Voilà.
Donc la tulipe sauvage lance une pétition qui est visible et remplissable sur divers lieux du centre-ville.
Et en ligne.
Et en ligne. À quelle adresse ?
On mettra le lien sur le site de RDWA parce qu'il est complet.
Ouais. Et tu voulais terminer là-dessus
Ou toi, hein.
Oui. Sinon, voilà, il y a la pétition qui circule, qu'on peut trouver dans les commerces de Die ou sur le marché. Il y a nos demandes de rencontre. Demain soir, c'est... le conseil communautaire, on aimerait intervenir. Voilà, on interpelle tous les élus et habitants du Diois pour se joindre à nous et préserver les terres agricoles.
Voilà, on a besoin en fait qu'il y ait un retour des habitants, que tout le monde puisse se saisir du sujet, donne leur avis. Peut-être qu'il y aura différentes positions. Et pour ça, on a aussi fait une demande très claire dont on attend encore la formalisation à la mairie de Die pour organiser un débat public. On aimerait rencontrer, que se rencontrent les élus, les habitants, pour parler de ce sujet de manière publique et partager les informations et comprendre mieux dans quoi on s'engage en faisant les choix qu'on va faire.
Marie et Alison, je vous remercie toutes les deux donc d'être venues parler de la tulipe sauvage et de sa pétition et des terres agricoles de Chamarges.
Merci.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Bonne
Au
journée.
Revoir.
Au revoir.
You would hold your head out high. You would hold another hand. Oh, understand. They even see me under cold. We under all, we awful crawl to hem I are. Don't see me cry. Just searching, you even try. I can make you smile. If it's there, will you go there too? When I live, I die. They even see me under cold. We under all, we awful, awful crawl. Because of you. To see me be. Cool job.